La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
La foi, l'amour fou. Bonjour. La foi est-elle l'amour fou? Mais non, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est une réponse de Maritain. Comment incarner sa foi, comment vivre sa foi avec une répartition entre trois formes d'amour et le plus parfait, le plus haut, Maritain l'appelle l'amour fou. Alors comment y arriver, comment y parvenir? Eh bien partons de Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est le livre de chevet des Maritains et vous avez une grande étude de Saint Jean de la Croix à la fin des degrés du savoir. L'ouvrage de 1932, Distinguer pour unir ou les degrés du savoir. Ouvrage qui est un ouvrage de philosophie métaphysique, de philosophie spéculative, et dans lequel Maritain oppose au concept une autre manière de connaître, la connaissance par connaturalité. Où la rencontre-t-on? Dans l'expérience mystique. Dans l'expérience mystique, il y a bien une connaissance de Dieu, mais pas conceptuelle, pas par la tête, mais par l'expérience, par le cœur. Et donc Maritain va s'attacher à faire un commentaire de la vive flamme d'amour. Je ne vais pas vous le reproduire ici, il y a une centaine de pages que je vous propose de lire en privé, mais je voudrais simplement vous donner un petit paragraphe de synthèse. Saint Jean de la Croix ne demande pas qu'on supprime l'activité des sens, pas plus que l'Évangile, quand il parle de ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux, ne prescrit la mutilation. Il aimait la beauté des campagnes, qu'il aidait à prier. Saint Jean de la Croix avait la sensibilité la plus délicate. Il a été un des plus grands poètes de l'Espagne et du monde. Il s'est plaint parfois, il avait une profonde tendresse pour son frère François, le pauvre maçon, et une grande dilection pour ses fils et ses filles spirituelles. Mais il veut que dans l'usage des notions comme des attraits sensibles, la désappropriation soit absolue. Usez comme n'en usant pas. Plus tard, sur la montagne, tout sera transfiguré. En attendant, il faut commencer par tout perdre. C'est la loi du sentier. Dans l'ordre de la réalisation matérielle ou physique, renoncer à tout n'est pas possible. Et renoncer par la pauvreté, la chasteté, l'obéissance à tel bien déterminé de la nature est le privilège de quelques-uns. Mais dans l'ordre de la réalisation spirituelle, renoncer à tout et demander à tous ceux qui veulent être parfaits. Il n'est pas deux issues au débat lamentable d'un esprit enraciné dans les sens et qui leur communique son infini de désir. Donnez tout, pauvres hommes. Combien il est plus facile de tout donner que de donner à moitié. Tout ce que nous gardons est un cancer dans nos entrailles. Donc ici, le mot-clé, vous l'avez deviné, c'est désappropriation. Désappropriation, préfixe privatif, approprier, s'approprier quelque chose, c'est le rendre propre. C'est le faire mien. Et donc, c'est accroître mon moi, ma puissance d'agir, de faire, ma capacité matérielle. Après la petite chambre d'étudiant, ben, je veux la télé, je veux le skate, je veux la planche à voile, je veux la moto. Puis dès que j'ai un peu d'argent, ben, je veux la maison, puis je veux la piscine, et puis je veux les voyages. Et puis tout ce qui orne une maison, depuis le piano à queue, en passant par une maison secondaire ou je ne sais quoi. Donc l'infini dans l'appropriation matérielle, l'infini dans l'appropriation intellectuelle, la boulimie de savoir. Notre société est assez parlante dans cette accumulation des activités. Je ne vais pas le montrer, mais nos adolescents, nos enfants ont des emplois de temps de ministre, parce que pour un équilibre, il leur faut faire du judo, un peu de natation, un peu de cheval, bien sûr de la musique, aller voir différents pays étrangers pour apprendre rapidement les langues, tout en continuant à faire un cursus au lycée, et si possible, un double cursus à l'université. Cette exponentialité de l'accumulation des savoirs qui monte de manière exponentielle est probablement une dérive d'un monde qui n'a pas trouvé son équilibre parce qu'il a perdu le sens du carême, c'est-à-dire le sens de la désappropriation. Se désapproprier pourquoi? Pour faire le vide. Il y a actuellement le goût du jeûne pour le jeûne. Alors on voit des manuels, comment jeûner, pourquoi jeûner, etc. Non, c'est pas le vide pour le vide, c'est creuser le désir de Dieu. Et dans creuser le désir de Dieu, il y a se désapproprier par les moyens, qui sont des moyens concrets. Il n'y a pas de moyens non concrets. Donc le jeûne, c'est faire passer un besoin, sans les 6 besoins principaux, dont la nourriture et la boisson, bien, il n'y a pas de vie. Donc c'est de dire le désir de Dieu est plus grand que la vie, tout simplement. Même si on en a besoin pour vivre, l'homme ne vit pas que de pain. C'est cette articulation qui fait la spécificité du jeûne chrétien. Et Maritain en est conscient. Donc Saint Jean de la Croix lui sert de modèle pour comprendre ce sens de désappropriation au sens très large. Et la conclusion, il n'y a pas de demi-mesure. Donc la désappropriation, on va dire, est un processus. Elle est une sorte de mise en route vers une tangente qu'on atteigne ou qu'on n'atteigne pas. Mais ce qui compte, c'est ce mouvement qui est permanent. Je vous propose de réfléchir avec un choral. Jésus se tenait sur le bois de la croix. C'est de l'Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach. Ce magnifique choral, Christ se tenait sur le bois de la croix, vous l'avez peut-être pas repéré, mais vous le réécouterez chez vous, est aussi une rhétorique, on va dire figurative et symbolique, dans la mesure où le texte donne à Jean-Sébastien Bach des idées de transcription musicale. Que se passe-t-il sur la croix au moment où il meurt et prononce les 7 dernières paroles du Christ en croix, vous le savez. Et ces 7 paroles font une recréation du monde. C'est l'ultime parole du Christ. C'est son testament. C'est du poids de sens. Et donc Bach a l'idée d'écrire une sorte d'octave. Donc on a au pédalier les octaves qui se font par 7 fois, comme pour signifier l'octave de la création dans ces 7 paroles du Christ. C'est une symbolique forte, hein, puisque le 8e jour, c'est-à-dire un renouveau du monde, est proposé avec le lundi de Pâques. Hein, on a un recommencement dont la Pentecôte se fera l'écho. Un recommencement avec la descente de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire une recréation. Il y a une nouvelle ère qui est instaurée par la résurrection et Pâques le met au pédalier. C'est au pédalier qu'on a ces sauts d'octave par 7 fois pour transposer musicalement les 7 paroles du Christ en croix et signifier la recréation du monde par la croix. La rédemption est une véritable recréation. Admirable Jean-Sébastien Bach, qui est un théologien en musique. Ce qui nous permet de revenir à notre théologien en philosophie, même si Maritain prend toujours soin de distinguer théologie et philosophie, de dire qu'il n'est pas théologien, mais il réfléchit à sa foi avec les concepts et il est absolument génial, d'une finesse rarement égalée. Alors je voudrais continuer un peu plus loin. Comment comprendre ce qu'on a qualifié de désappropriation à la suite de Maritain, commentant Saint Jean de la Croix? Maritain prend en 1939, donc 7 ans après la publication des Degrés du Savoir, un autre mot pour décrire cette désappropriation, celui de détachement. On le retrouve dans 4 essais sur l'esprit dans sa condition charnelle. Vous voyez tout de suite la thématique maritainienne, hein, esprit, condition charnelle, descente de l'esprit dans la chair. Un petit extrait nous permettra de mesurer ce dont il s'agit. Comportement évangélique ou détachement de la perfection dans la perfection? Je fais allusion ici à ce fait que la perfection évangélique n'est pas une perfection d'athlétisme spirituel où l'homme se rendrait sans défaut, voire impeccable, mais la perfection de l'amour envers un autre, que l'âme aime plus qu'elle-même, et qui lui importe avant tout d'aimer davantage et de joindre, fût-ce en traînant avec elle imperfection et faiblesse, déficience du corps et de l'esprit, voire péché qu'elle déteste, et qu'elle lui donne aussi avec tout cela qui se charge d'ôter. Ce détachement de la perfection dans la perfection est, me semble-t-il, le secret des âmes qui ont passé le seuil de l'union. Et ce comportement invisible se reflète comme en un miroir visible dans un certain comportement typique avec le prochain. De quoi s'agit-il ici? Vous l'avez deviné, Maritain a toujours des comparaisons superbes. Il ne s'agit pas d'un athlétisme spirituel, c'est-à-dire chercher le défi, le dépassement des limites, le dépassement d'un score, faire toujours mieux, c'est les Jeux Olympiques spirituels, ça. C'est chercher la perfection dans la perfection. Ça n'a absolument rien de désappropriation. Il ne s'agit pas de chercher le Christ, mais de se chercher soi. Donc, dans une sorte de livre des records de la 16, de soi-même à soi-même, ah ben, j'ai réussi à battre mon propre record. Hein, vous avez tous ces joggeurs qui ont de quoi mesurer leurs pas et les calories brûlées. J'ai battu mon propre record, on est dans un auto-selfie. C'est pas ça du tout. Maritain insiste bien. Et quel est le critère? Quelle est la jauge? C'est justement de ne pas chercher ce retour sur soi-même, de ne pas chercher à mesurer où on en est dans la perfection. La seule mesure, ce sera une manière d'être avec le prochain. À des gestes infinitésimaux, à un ton de voix, je dis bien presque un timbre de voix, dans la manière dont on dit un bonjour, plus posé ou pas posé. Ou bien c'est un bonjour académique qui fait partie des règles de politesse. Ou bien on remplit ce bonjour de la plénitude d'une présence. C'est énorme. Pourquoi? Parce que très souvent le prochain le ressent. On peut se débarrasser d'un bonjour parce qu'il faut le faire, parce qu'on est habitué, parce qu'il y a une mécanique, mille raisons. Ou on peut au contraire le rendre unique. Alors, Maritain, toujours pareil, propose des catégories et je voudrais passer à cette trilogie qu'il propose de l'amour. Alors, il va proposer l'amour passion, l'amour authentique et l'amour fou, comme trois, on va dire, degrés de l'amour, trois possibilités de l'amour. C'est des pages qui sont un peu, méthodiques. C'est pas forcément les pages que je préfère, elles sont pas les plus hautes, mais je tiens à vous les donner parce qu'elles peuvent éclairer notamment les jeunes générations. Et Maritain est aussi un guide, un repère pour tout le monde. Alors, ces pages de l'amour fou, elles sont données dans Approche sans entrave, c'est toujours son œuvre posthume. Et l'amour passion, vous le devinez, c'est l'amour romantique. C'est une première porte, un premier pas. L'amour authentique, c'est un amour sincère, correct, qui a grandi par rapport à l'amour passion. Et l'amour fou, c'est cette folie de Saint Paul. C'est pas l'amour fou au sens de je t'aime un peu à la folie, ça c'est l'amour passion. C'est l'amour fou au sens de la folie, de la croix. N'est pas la folie, n'est pas la sagesse du monde. L'amour d'ordre proprement humain commence là où à l'attrait des sens se joint, au moins en ébauche, ce don de la personne elle-même, direct et à découvert, dont nous parlions plus haut et qui procède de l'amour de dilection. L'amour de dilection, c'est l'amour « je te choisis ». On peut dire qu'au moment où ce seuil est franchi, du même fait, du don par où l'aimant se donne lui-même à l'aimer, le sens du mot « exister » se dédouble. L'aimer seul existe pleinement et absolument pour l'aimant, l'existence de tout le reste étant frappée d'une sorte d'invalidité. Ici, c'est une paraphrase de « un seul être un seul être au monde compte et tout le reste est dépeuplé ». Il y a d'abord ce qu'on peut appeler l'amour-passion, qu'on peut appeler aussi, dans sa forme la plus sublimée, l'amour romantique. Cet amour joue un rôle central dans la vie humaine. Il est un mirage. Où va se prendre une nostalgie inhérente à l'être humain. Il a ses initiales entrelacées sur tous les arbres du monde. Il vit d'un mensonge et d'une illusion. Il est le mirage ou le simulacre de l'amour tout à fait vrai. Il se croit éternel, or il est éphémère. L'aimant s'y donne à l'aimer et l'aimante à l'aimer. C'est vrai, mais en imagination, ou en rêve plus qu'en réalité. C'est l'amour de convoitise, ou le désir charnel qui y tient, souvent qu'on le sache, la place essentielle et prépondérante. Le don total de soi-même, que le plus sincèrement du monde on s'imagine avoir fait, n'est pas réel mais rêvé. Et n'est à vrai dire qu'un déguisement, par où l'esprit en nous couvre d'une parure royale le désir d'essence, et dont l'espèce se sert pour ses propres fins en trompant l'individu. Il est bon à l'être humain de passer par cette exultation qui évoque les chants nuptiaux, les danses nuptiales, des oiseaux, mais à condition de ne pas prétendre y demeurer, car un homme n'est pas un oiseau. Y passer, mais ne pas y rester. Bon, vous avez compris, c'est le coup de foudre dont tous les jeunes rêvent, c'est l'énamoration dont tous les jeunes rêvent, dont nous rêvons tous, toute la publicité fondée là-dessus. Le couple sur une plage de sable, qui avec de grands sourires, l'idylle parfaite, c'est une réécriture de songe, mon enfant, ma sœur, à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. L'invitation au voyage de Baudelaire. Maritain, très net, c'est une illusion. Mais une illusion qui permet la découverte des sens et un premier don de soi, si on va plus loin. Il y a en second lieu, dit Maritain, l'amour authentique. Où il est rare, quoique non impossible, que l'on débouche du premier coup, donc passage par la première voie. Donc on peut dire que l'amour-passion, l'amour romantique, l'énamoration, est une sorte de porte, un moyen d'accès à l'autre. L'homme n'y arrive ordinairement, à cet amour authentique, après une certaine maturation, dans l'expérience de la vie et dans la souffrance. Ici, c'est une véritable formation pour les fiancés. C'est l'amour où l'un donne réellement à l'autre, non seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est, sa personne même, sous la forme ordinaire de cet authentique amour. Un tel don est fait sans doute, mais comme commencé ou ébauché, non comme fait jusqu'au bout. Donc ici, je reprends une formule que j'ai entendue un jour à un mariage. Le prêtre a dit dans son homilie, vous êtes entré ici parce que vous vous aimez. Vous allez sortir de cette église parce que vous voulez vous aimer. Magnifique synthèse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés sans vouloir s'aimer, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils vont sortir sans s'aimer, bien sûr. Mais vous avez compris que dans ce jeu de rajouter le verbe vouloir, il y a plus que le premier amour-passion, qui est un amour un peu des sens, un peu de la facilité. Elle a un joli nez, elle a un joli cheveu, elle a une belle taille, il est magnifique, il sait faire de la moto, du violon, et il a ce charme. On dépasse aussi, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'un couple va vieillir et qu'on s'aime pour le meilleur, jamais pour le pire, que pour le meilleur. C'est le meilleur de voir ces vieux couples où l'un est atteint d'une sclérose en plaques, d'Alzheimer, et le conjoint lui est fidèle dans tout ce que ça comporte de difficile au quotidien, de douloureux. On est défiguré par les traces de la vie, la beauté de la jeunesse assez ride rapidement, et ses handicaps, et ses maladies, et ses scléroses. Et c'est tout ceci que vit l'amour authentique. Un amour authentique est un vouloir aimer, un vouloir construire, autrement dit un engagement. Un engagement jusqu'au bout. Et cet engagement jusqu'au bout peut déboucher sur la troisième forme d'amour, qui est un amour vraiment de très haute qualité. Maritain dit, on a la forme extrême, tout à fait absolue. Cet amour où la personne même de chacun se donne à l'autre en toute vérité et réalité est, dans l'ordre des perfections ontologiques de la nature, le sommet de l'amour entre l'homme et la femme. L'aimant se donne vraiment à l'aimer et l'aimer à l'aimant comme à son tout. Autrement dit, s'extasie en elle ou en lui. Se fait une partie qui n'existe plus que par et dans ce tout qui est son tout. Cet amour extrême est l'amour fou, et un tel nom lui convient en propre, parce qu'il fait précisément ce qui est de soi impossible et insensé dans l'ordre de la simple existence, ou de l'être tout court, où chaque personne continue d'être un tout et ne saurait devenir simple partie d'un autre tout. Vous le voyez, avec le mot s'extasie dans l'autre, on est passé à un amour qui a pour fond la vie spirituelle, la vie théologale. L'autre n'est qu'une partie d'un autre tout, ce tout c'est le Christ. Et là on passe à l'amour fou parce que c'est un amour englobé dans un amour théologal. Je n'ose pas dire mystique parce qu'avec le mot mystique, tout le monde imagine que c'est réservé à des extases mystiques, à une profondeur mystique qui n'est pas faite pour tout baptiser. Non, la vie mystique, c'est la vie théologale. C'est la vie de l'horizon, des sacrements, et c'est cette vie d'union à Dieu, où il s'agit d'une vie unitive au Christ. Si bien que, comme dira saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, et cette inhabitation du Christ permet cet amour parfait, c'est-à-dire l'amour fou, comme le propose Maritain. J'insiste sur ce paradoxe que Maritain va ici développer en termes, on va dire, vraiment philosophiques. C'est là le paradoxe propre de l'amour. Il exige d'une part la dualité ontologiquement imbrisable des personnes, toi et moi, le « je-tu » de Martin Buber, et d'autre part, il demande, et à sa manière, accomplit l'unité sans faille, l'unité effectivement consommée de ces mêmes personnes. En un seul esprit et amour, dira saint Jean de la Croix, à propos de l'union mystique surnaturelle. Mais cela est déjà vrai sur un tout autre plan et en un sens analogique de l'union naturelle entre l'homme et la femme dans l'amour fou. Au plan que nous considérons à présent et qui est le plan terrestre, l'amour fou humain, à la différence de l'amour fou pour Dieu, cela relève de l'ordre simplement naturel. Bien plus, dans cet ordre même, il est une perfection ontologique de la nature. Attention, on est passé d'un sentiment à un engagement, dans le deuxième amour, l'amour authentique, à une ontologie. C'est-à-dire que la nature humaine n'est pas faite pour rester au plan de la nature. Elle est faite pour être parachevée, parfaite par la surnature et vivre déjà ici-bas de la vie surnaturelle. Donc une ontologisation, finalement, par l'amour de l'homme dans ce qu'il est appelé à devenir, c'est-à-dire contempler Dieu dans la patrie. La vision de Dieu dans la patrie est le terme ultime et la justification de la marche de pèlerin que nous sommes sur terre, c'est-à-dire in via, en chemin. Et c'est important de voir cette énonciation de troisième forme d'amour, de l'amour fou, en termes philosophiques. De là, la splendeur et l'ambiguïté de cet amour fou. Son objet est un objet créé, ben oui. Et celui qui aime d'amour fou se donne totalement. L'objet de son amour est une créature limitée, fragile et mortelle. Ce serait méconnaître les grandeurs de notre nature, de croire que cette créature aimée d'amour fou devient, pour l'aimant, nécessairement une idole, et est nécessairement aimée par lui plus que Dieu. Attention, deux écueils. L'idole, le radical, c'est eidos, voir, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans le regard réflexif. L'idole, c'est qu'un amour de soi. Je crois qu'il y a vraiment une lutte tout au long de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, qui est la lutte contre les idoles, qu'elles soient extérieures comme le veau d'or et toutes les autres idoles des dieux Baal et des Philistins et compagnie, ou qu'elles soient intérieures, comme on a dans la tentation par Satan du Christ au désert. Agenouille-toi devant moi, adore-moi, c'est idolâtré. Donc ici, la lutte contre les idoles, intérieure comme extérieure, est vraiment un écueil et un combat à mener. Et l'autre danger, c'est d'aimer plus la créature que Dieu. Maritain, on a l'impression, livre son expérience de vie conjugale. Livre ici dans ses pages toute son évolution d'un homme de prière, d'un homme d'horizon. Raïssa est vraiment bénie, elle a des grâces mystiques. Et donc, il y a une grande maturation dans ce couple qui permet de comprendre ces pages. Et je finis l'émission en disant « La personne est avant tout et principalement esprit ». C'est la conclusion de Maritain. Et c'est donc comme esprit qu'elle se donne avant tout et principalement en se donnant tout entière. Autant l'esprit est élevé au-dessus de la chair, autant l'amour fou, l'authentique amour sous sa forme extrême, est élevé au-dessus de l'amour. Passion.